liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 24, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, le sommaire.
On va reparler du pacte du logiciel libre. Un article du Nouvel Économiste sur les logiciels libres et l'open source globalement. Bon article d'un bon site des directeurs d'établissements au Québec qui nous met en avant un petit peu tous les avantages et les différences du libre. On va passer sur le prix Nobel qui a été donné à Linus Torvald.
Ouais, pas tout à fait Nobel, mais... Voire
presque,
pas du tout.
Presque, ça vient du même coin, donc moi j'aimerais bien penser que ce soit la même chose. On va passer sur la Silicon Valley et l'automobile, l'US Navy, toujours des petites choses amusantes avec leurs drones, enfin, quand ils ne tuent pas des gens. Et puis ensuite, les députés qui vont choisir Ubuntu ou Windows, et pour finir, un article sur un site lui aussi nouveau qui nous met en avant Nokia, Microsoft et les Patent Trolls.
Numérama, 90 candidats au deuxième tour des législatives ont signé le pacte du logiciel libre, un article de Julien L. Donc, retour sur la campagne candidat.fr, avant le second tour, puisque c'est la revue de presse de la semaine dernière. Et donc, l'article signale qu'on a 90 signatures du logiciel libre par les candidats du deuxième tour. Et remarque également qu'il y a une disparité assez importante en fonction de l'orientation politique des candidats.
Oui, à droite, il y a comme un trou, il y a un trou d'air, il y a un manque. Ils ont tendance à ne pas aller signer ces choses-là, à ne pas en prendre connaissance et pas en tout cas montrer leur support.
Voilà, les candidats, le plus grand nombre de candidats qui ont signé le pacte, ce sont les candidats d'Europe Écologie Les Verts et évidemment aussi les candidats du Parti Pirate qui ont massivement signé. Ça fait partie de leur programme.
Mais pas tous, hein, parce que justement, ça fait partie de leur programme et il y en a certains qui pensaient que non, c'est pas la peine d'aller montrer que...
Après, je pense que c'était une première campagne pour la plupart d'entre eux, qu'on a énormément de choses à faire et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Je veux bien croire qu'un certain nombre d'entre eux se soient laissés déborder, n'aient pas eu le temps et zappaient le truc. Ça peut arriver.
Exactement. En tout cas, gros boulot de l'April. Il y a eu plusieurs soirées qu'on a passées à appeler, à contacter, à tweeter. Pas forcément avec du retour. J'attends toujours un retour de François Fillon. Mais bon, en attendant, il y a eu des gens qui ont signé. Et on peut espérer que ça va avoir des effets sur le Parlement, l'Assemblée nationale.
Le Nouvel Économiste, logiciel libre open source, par Jean-Marie Benoist.
Un long article, un bon article, n'est-ce pas ?
Non, c'est un mauvais article. Donc c'est un article qui fait un tour d'horizon, qui est assez orienté sur l'entreprise, et notamment tout ce qui est comptabilité, etc. Mais il y a quand même dedans des gros points noirs.
Des points noirs, des légers points noirs. Ils parlent du fait que l'open source n'est pas forcément gratuit, par exemple, c'est vrai.
Alors ouais, grosse confusion qui fait un petit peu mal. C'est dit que la différence entre libre et open source, bon déjà ici le libre, c'est pas si mal, c'est que le libre c'est gratuit, l'open source pas nécessairement. Donc déjà c'est un truc qui est complètement fou, ça.
Oui, je rappelle, le logiciel libre peut être payant, il n'y a aucun souci à vendre du logiciel libre, c'est pas un problème du tout.
Voilà, autre truc que j'ai relevé, mais il y en a d'autres, des imprécisions, l'auteur affirme que dans le logiciel libre ne propose pas de formation alors que ça se fait dans le logiciel propriétaire.
C'est vrai que Windows, quand on reçoit un CD, il y a une formation inclue dans le CD.
Voilà, il y a un mec qui vient avec le CD, ou toutes les boîtes qui font du business sur le logiciel libre, bien sûr, forment leurs clients. Enfin, donc, il y a quelques trucs comme ça où on sent que l'auteur soit a pas compris certains trucs, soit s'est fait sabrer son article. Mais sur de la publication web, c'est un petit peu étonnant.
Et puis il est tellement costaud, enfin tellement long qu'a priori c'est pas ça. J'aurais tendance à penser qu'il a fait quelques raccourcis. Il a pas comparé les mêmes choses exactement. Quand il parle du logiciel libre, il va parler du logiciel lui-même. Quand il parle du propriétaire, il va parler de ce qu'il y a autour, l'entreprise, le service qui est fourni quand on achète quelque chose. Ou là, oui, effectivement, on achète un service qui va avec. Il n'y a rien qui empêche de le faire avec le libre. Donc il a un petit peu
voilà,
caché.
Il fait comme s'il n'y avait aucune entreprise du libre, donc c'est un petit peu embêtant.
C'est un petit peu ça, hein, donc tout simplement, il ne doit pas les connaître ou les reconnaître. Il parle aussi du salon Solutions Linux, qui est en train de se dérouler en ce moment, et de l'accord ACTA. Donc vraiment un long article. Ce qui est pas mal, c'est que c'est le Nouvel Économiste qui parle de ces sujets, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais effectivement, il faut encore qu'il travaille un petit peu.
FQDE. comment les logiciels libres peuvent faire une différence. Alors, un article de Patrick Giroux et René Fontaine. Alors, il y a un Q dans le nom du site, ce qui veut dire que ce sont les Québécois.
Exactement, je retrouve le nom, c'est la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Un site intéressant parce qu'il montre les directeurs et la direction des établissements scolaires, hein, globalement. Donc, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est intéressant. C'est la première fois qu'on les retrouve dans la revue de presse. Voilà. C'est des gens qui ont un gros pouvoir, puisqu'ils peuvent faire des choix pour les jeunes, pour ceux qu'on éduque.
Alors, autant l'article du Nouvel Économiste montrait que l'auteur maîtrisait assez mal le sujet, là on est sur des gens qui ont bien compris de quoi il s'agit. C'est un article assez généraliste qui présente le logiciel libre, avec bien sûr un point de vue éducation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par parler de savoir, de partage du savoir, d'idéal, etc. Il parle un peu de gros sous également, en disant que ça permet de faire des économies, mais c'est pas l'essentiel, et ça c'est bien, et ça parle bien de logiciel libre et pas d'open source. Donc, manifestement, un article de vrai libriste, et qui a un propos vraiment bien construit et vraiment sur la question des principes de l'éducation, avec ce truc que je trouve très intéressant par rapport à l'éducation. Alors je connais rien en sciences de l'éducation, mais sur des théories qui disent que le savoir c'est quelque chose qui est socialement construit avec des gens qui échangent, qui ont envie de partager, etc., et que du coup on acquiert le savoir dans la relation sociale, et que le logiciel libre dans ce cadre-là a des tas de choses à offrir.
Exactement, donc si vous êtes professeur, si vous êtes intéressé, parce que vous avez des enfants, et que vous voulez montrer à l'établissement dans lequel vous les envoyez ce que ça peut apporter, allez jeter un œil. Donc c'est fqde.qc.ca, après ça effectivement.
Silicone.fr, Linus Torvalds, l'égoïsme est à l'origine du succès de Linux. Donc c'est un article interview d'Ariane Becky.
Donc il a gagné le prix Nobel.
Non.
Comment ça, non? Enfin, ça ressemble énormément quand même.
Il a gagné le Millennium Technology Prize, décerné par l'Académie finlandaise de technologie, donc il n'y a pas d'histoire de Nobel là-dedans, mais on en avait déjà parlé de ce prix qu'il avait obtenu au moment où il l'a eu. Hein. Et cette interview revient sur le truc. Alors cet article, pour moi, il m'a évoqué des trucs immédiatement. Hein. Quand on a dans des systèmes où on dit c'est l'égoïsme qui prime, ça fait tout de suite penser à la loi du marché, l'offre, la demande. Chacun veille à son petit intérêt et tout est censé se dérouler à merveille derrière. Et c'est un petit peu plus subtil que ça. Torvalds dit en gros, ce n'est pas un revival hippie, le logiciel libre, l'open source, dit-il. C'est des gens qui font des trucs parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils ont intérêt à le faire. Mais là où ça devient un petit peu plus subtil, qui dit que l'intérêt, ça peut être juste son plaisir. C'est ce que lui avait fait en 91 quand il avait sorti le Nougat Linux. Il a fait ça parce que lui, il aimait bricoler l'informatique et maîtriser la machine, et qu'il avait publié ça pour avoir des commentaires, des idées, des choses comme ça.
Voilà, c'est un mec bien, hein, ce gars. Il est pragmatique et lui, il remarque, voilà, on est égoïste, il est égoïste, mais c'est pas l'égoïsme qu'on pourrait dire classique ou réduit à sa simple connotation sonnante et trébuchante. C'est pas juste je vais gagner de l'argent avec ce que je fais, non, ça a beaucoup d'autres intérêts. Et puis il remarque la licence aide à tout cela. On n'a pas besoin d'être altruiste pour travailler, mais on peut travailler. Et lui, ce qu'il apporte, il apporte beaucoup de choses. Il apporte une impartialité, puis de la confiance qui permettent de construire quelque chose d'assez gigantesque. Il semblerait que c'est le plus gros prix de technologie du genre qui récompense les actions, enfin les avancées qui aident la vie des êtres humains. Donc c'est technologique, alors que le prix Nobel, c'est scientifique.
Donc en gros, lui n'est pas altruiste, mais manifestement, les gens qui ont donné le prix le sont à sa place. L'usine nouvelle, le Ford Silicon Valley Lab, sera focalisé sur l'open source. C'est une interview menée par Emmanuel Delsol. Donc, c'est qui ce gars qui a été interviewé?
Alors, l'interviewé, c'est un patron qui s'appelle T.G. Giuli. Donc, c'est le patron d'un nouveau laboratoire, le Ford Silicon Valley Lab en Californie, donc qui parle à l'usine nouvelle, hein, donc, de ce qu'ils vont faire là-dedans et de la manière dont l'open source, le logiciel libre, va faire changer les choses, va les améliorer. Parce que l'automobile, c'est pas vraiment focalisé sur l'agilité et les changements rapides, alors que le libre, l'open source, aide à avancer dans cela.
On retient de cet article que l'idée, c'est d'avoir des systèmes modulaires où l'utilisateur soit indépendant du concessionnaire, qui puisse modifier. Il donne des exemples comme par exemple un GPS. Voilà, on installe le module GPS, on peut le changer 2 ans après, etc. Parce que l'automobile, c'est un côté comme ça, très monolithique et tout ça. Donc ça prend un biais très différent par rapport à tout ce qui se fait dans l'automobile, où on sait qu'il n'y a que des clés spéciales pour la mécanique, des boîtes informatiques où seuls les concessionnaires l'ont et qui permettent de faire des diagnostics, etc. Bon, il insiste également sur le fait qu'être dans la Silicon Valley, ça leur permettra de travailler avec toutes les grosses boîtes et d'être effectivement dans la logique du libre. Et donc vraiment un tournant assez important par rapport à la façon dont l'automobile travaille habituellement. Ça vient de Ford, hein, qui est une de ces boîtes américaines qui en a pris plein les dents avec la crise et face aux Japonais, etc. Donc, bon, ça reste une petite structure, mais manifestement, c'est aussi un laboratoire dans, je pense, le test de nouvelles méthodes.
Oui, je trouve ça intéressant, c'est qu'ils trempent le pied pour tester des nouvelles façons de faire. Ils veulent s'organiser sur des évolutions rapides, sur du réseau social notamment. Donc, ils veulent intégrer des nouvelles idées, pas faire du monolithique, pas faire du « j'achète une voiture, elle ne bougera pas pendant 10 ans, pendant 20 ans », mais non, il faut faire évoluer les choses. Un peu comme un téléphone portable. Je pense qu'ils ont peut-être une envie de faire une voiture rapidement et évolutive. Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et en tout cas, cette idée toujours, le logiciel libre, l'open source, ça favorise des nouvelles choses, c'est une nouvelle façon de faire. Donc c'est toujours une pensée qui percole dans plein d'autres milieux.
Silicone.fr, Exit Windows, Linux pilote les drones de l'US Navy. Donc c'est un article de Yves Grandmontagne.
Donc il semblerait que les drones, donc ces avions et autres véhicules sans pilote, étaient conduits auparavant par du logiciel propriétaire, peut-être même par du Windows.
Et tout à fait. L'article fait valoir des problèmes de fiabilité, et notamment qu'ils ont eu des problèmes de piratage. Les gens ont plugué un disque dur externe sur le système et les drones ont été piratés. Il faut savoir que c'est des drones armés, ils tirent comme des missiles, donc c'est un petit peu embêtant. Alors on sait que les Américains, les drones c'est important, aujourd'hui ça fait 70% de la flotte d'engins volants des États-Unis sont des drones, donc ils ont considérablement modifié le truc.
Et ils n'hésitent pas à les utiliser parce que contrairement à des engins qui sont conduits par des pilotes humains, là bah tant pis, hein, si on perd quelque chose c'est juste des dollars, alors qu'il y a la vie humaine, ça peut faire du mal politiquement.
On risque pas de se retrouver avec un otage ou des choses comme ça. Alors, on sait qu'ils avaient eu pas mal de soucis avec leurs drones, il y avait eu le canal vidéo en Afghanistan qui était pas crypté, donc en fait les gars en face récupéraient la vidéo du drone. Donc, c'est dire à quel point les Américains sous-estimaient leurs ennemis. On a également récemment en Iran un drone espion qui s'est posé en plein milieu de l'Iran. Alors, évidemment, c'est pas trop pourquoi.
Et intact. Hein.
Et quasi intact. Donc manifestement, ils ont réussi, les Iraniens ont réussi à le détourner d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc bah, là, l'idée, c'est que la Navy a mis un gros paquet d'argent sur la table en se disant que la partie logicielle c'était important. Alors, chose intéressante, l'article précise.
Très intéressante, hein. Moi j'avais pas conscience de ça.
Il y a une loi qui autorise l'armée américaine à faire à peu près n'importe quoi avec le copyright, les licences, etc. Tout ça, eux, ils s'en foutent.
Et oui, le droit d'auteur ne s'applique pas à l'armée américaine.
Voilà, donc ils font ce qu'ils veulent.
Bravo pour eux, parce qu'en tout cas, ça leur permet de faire les choix qu'ils veulent. Donc, est-ce que l'armée française a les mêmes possibilités? Je n'en suis pas sûr. Si quelqu'un le sait, on est preneurs d'infos.
PC Impact, Ubuntu, Windows chez les députés, pourquoi le choix du choix, à un article de Marc Ries. Donc c'est la suite de ce qu'on avait évoqué les deux dernières semaines.
Oui, donc rappelez-vous, les députés sur la législature précédente avaient des ordinateurs sous Ubuntu.
Voilà, ce qui était en place depuis 5 ans, donc c'était du logiciel libre, uniquement du logiciel libre, et donc là, nouvelle période. Et
les anciens députés sont partis avec leur ordinateur, c'était plus simple de leur filer, ils étaient largement amortis, mais là, avec les nouveaux ordinateurs, viennent des nouveaux problèmes.
Voilà, bah, désormais ils auront le choix entre du Windows ou du logiciel libre, a priori Ubuntu. Donc là, plus d'explications là-dessus, et donc avec plus d'explications, et notamment, bon, d'une part, on l'avait déjà dit, Microsoft a fait des efforts considérables au niveau des prix.
Et oui, ils sont bons en lobbying. Et
là, c'est un peu l'endroit où il faut faire un effort commercial, évidemment. L'autre sujet, on l'avait évoqué également, c'était des problèmes techniques. Là, on en sait un petit peu plus.
Oui, ils ne nous avaient pas expliqué exactement de quoi ils retournaient. C'était quoi? Il y avait des bugs, il y avait des trucs qui ne marchaient pas, et là, non, on sait.
Alors, il y a eu des bugs, on peut se faire quelques retours, mais c'était pas l'essentiel. Le problème, c'est des problèmes d'interopérabilité, notamment avec les iPads ou tous ces nouveaux systèmes, les synchronisations d'agenda, etc. Donc, des purs problèmes d'interopérabilité. Donc ça, c'est un sujet important dans le logiciel libre, c'est comment on fait pour que les systèmes puissent communiquer les uns avec les autres. Et une des armes du logiciel propriétaire, c'est justement de se débrouiller pour que surtout ça ne communique pas, de telle sorte que les utilisateurs restent bloqués chez eux.
Qu'ils soient enfermés, tout simplement. Une fois que vous utilisez certaines briques, certaines couches, vous ne pourrez pas en sortir parce que bah, vous perdez tout, hein, et vous ne pouvez pas synchroniser votre calendrier avec d'autres solutions. Donc le libre, lui, c'est une ouverture, c'est une sortie de cette prison. Mais quand on est sorti de la prison, c'est bien, mais tout ce qui est à l'intérieur, vous n'y avez plus forcément accès. Donc là, les députés, on va voir, mais peut-être...
Alors, en tout cas, c'est un choix politique de dire, bah, voilà, les entreprises de logiciels propriétaires jouent sur l'interopérabilité, et bah, on leur donne gain de cause, en quelque sorte. Et donc, on choisit le confort d'utilisation de leur système fermé sur l'indépendance. Gossi, Nokia, Microsoft, leur alliance pose des problèmes de concurrence importants. Donc c'est quoi ce site ?
Alors un article de Gomarus, il semblerait. Et donc c'est un nouveau site, Gossi Mag, qui est destiné aux 15-25 ans. J'ai creusé un petit peu sur ce qu'il y avait derrière. Donc là ce qui est amusant, parce que l'article en lui-même, bon, il a quelques fautes, hein, des fautes d'orthographe notamment. C'est pas très grave,
ah, petit jeune.
N'est-ce pas ? Mais c'est qu'il met en avant Nokia, Microsoft, et on voit qu'il y a plein d'articles sur ces compagnies-là sur le site. Et donc il explique leur alliance, le fait que... Ils n'ont pas été mangés l'un par l'autre, hein, mais quasiment. Ils mettent en commun notamment leurs brevets. Et ces brevets, ils vont les utiliser comme des armes pour attaquer leurs concurrents sur des marchés où ils sont mauvais, tout simplement.
Voilà, donc on l'avait évoqué à de multiples reprises là depuis un an ou deux. Avant, on faisait pas la revue de presse de toute façon. Bah voilà l'article sur ce site qui est assez... c'est qui coulole quand même par ailleurs. Bah voilà, pointe ça et en disant qu'au final, ça fait monter le prix du matériel et que c'est de toute façon le consommateur qui paye. Ils sont très orientés à argent. Mais voilà, en tout cas ça dénonce cette mécanique.
Donc les patent trolls qui vont arriver derrière, ça va être tout un bordel. Une fois qu'ils vont créer des compagnies vides juste pour gérer les brevets, vous allez voir, ça va nous exploser la tête. Sur ce, à la semaine prochaine Luc.
Salut.
Allez, salut les divergences.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.